Monseigneur Carré, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur notre antenne de Radio Maria France.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est déjà, pour commencer, est-ce que c'est une radio que vous connaissiez ?
J'en savais l'existence, mais sans plus, quoi.
Eh bien, dans cette radio, il y a une émission qui s'appelle « Témoignages de prêtres ». C'est donc votre témoignage, Monseigneur Carré, qui nous intéresse en particulier. Quand est-ce que le doigt de Dieu s'est posé dans votre vie ? Quels sont les débuts de votre appel à suivre le Seigneur Jésus ?
J'ai l'impression que le début a commencé très tôt, oui, puisque autant je me rappelle, je devais avoir, je sais pas, 7 ans peut-être, ou 8, j'en ai parlé à mes parents. Eux-mêmes, plus tard, quand je leur en ai reparlé, ne se rappelaient plus que j'avais dit cela. Donc ça devait être clair pour l'enfant que j'étais, mais peut-être que l'expression en était obscure. Mais j'ai senti que c'était mon chemin que d'être prêtre.
C'est venu au contact de, vous vous souvenez, de la parole de Dieu, de la sainte liturgie à la messe.
J'avoue que ces premiers souvenirs qui remontent très haut, je ne saurais pas dire la cause exacte. Hein, sans doute toute l'ambiance familiale, la vie de paroisse et la vie de prière en famille, etc. Hein.
Oui, vous avez grandi.
Après, bien sûr, ça a pris consistance au fur et à mesure du temps.
Oui, je comprends donc que vous avez grandi dans une famille pratiquante.
Pratiquante, chrétienne, oui, très. Mes parents avaient fait l'action catholique dans leur enfance, dans leur jeunesse. Hein. Donc c'était vraiment quelque chose qui était bien clair pour eux.
Et ça s'est éclairé ensuite pour vous votre formation. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui.
Est-ce que vous avez un attrait particulier ? Je sais que certains sont plus attirés vers le culte divin, d'autres plus vers l'écriture sainte.
Oui, voilà. Donc, pour ma part, j'ai déjà un certain âge. J'ai suivi la formation qui était très classique à l'époque, c'est-à-dire entrer en sixième à un petit séminaire. Et puis j'ai poursuivi, sans aspérité particulière, mon chemin jusqu'à être prêtre à 27 ans. Et, Il y avait diverses étapes, le service militaire, entre autres, dans ce cadre-là. Mais la parole de Dieu a occupé vraiment assez vite une grande place dans ma vie.
Quand vous dites « Monseigneur sans grande aspérité », ça veut dire que vous n'avez pas vécu tant d'épreuves pendant tout ce temps de formation ?
Non. Les choses ont vraiment toujours été assez simples, assez claires pour moi. Il m'a semblé que si je ne devenais pas prêtre, je passais à côté d'une réalité vraiment importante dans ma vie, essentielle, que c'était le chemin de mon service et de mon bonheur. Et c'était vraiment cela.
Nous serions heureux de vous entendre concernant l'écriture sainte. Qu'est-ce qui a brillé précisément devant les yeux de votre âme dans la parole de Dieu, qui est quand même un océan mystérieux? Il n'est pas évident non plus d'y rentrer.
Oui, c'est certain, mais je pense que c'est d'abord venu à l'écoute de la parole de Dieu dans la messe, hein, à travers la célébration de l'Eucharistie. Bon, elle était quotidienne au séminaire. Hein. Et puis, ensuite, voulant mieux la découvrir moi-même, lisant la Bible, la parole de Dieu, et puis plus tard, j'étais à ce moment-là diacre déjà, hein, mon évêque m'a demandé si j'acceptais de poursuivre des études bibliques et de me former en vue de devenir professeur d'écriture sainte au séminaire. Donc vous voyez, il y a une espèce de continuité qui s'est manifestée là, au fil des années.
C'était avant le Concile Vatican II, hein.
Non, quand même pas.
Non,
non je suis né en 47, donc le concile s'est terminé, j'avais 15 ans.
D'accord.
Ou 18 ans. Hein, voilà. Non, c'était ensuite, mais dans les années 70, voilà, que j'ai été ordonné diacre en 73 et prêtre en 74.
Vous avez donc bénéficié de cette ouverture très ample et large à la parole de Dieu.
Le grand texte des Verbum du Concile Vatican II, par exemple, bien sûr. Hein, ça fait partie des références majeures, hein, qui étaient là.
Et vous-même, les remous et les retombées du Concile Vatican II, comment est-ce que ça s'est passé dans votre vie qui était, comme vous le dites, sans aspérité, mais là, il y a dû peut-être avoir plus que des aspérités, parce qu'il y a eu beaucoup de défections et beaucoup de cassins aussi.
Oui, c'est vrai. Mais comment dire, en même temps, ces années-là, j'ai envie de dire, je les ai vécues plus calmement, enfin, sans, là encore, sans grande tension ni difficulté. Et de fait, peut-être parce que je me trouvais à Rome pendant le. Enfin, d'abord, étant séminariste, je me rappelle fort bien le. Nous nous disions entre séminaristes qu'il nous fallait être bien certain de notre vocation, dans la mesure où il y avait un certain nombre qui quittaient le ministère dans ce temps-là. Hein. Mais en même temps, pour nous, c'était assez clair que c'était bien ce chemin, il n'y en avait pas d'autre qui allait se manifester devant nous. Hein.
Et j'aimerais que vous nous parliez de guides, de ces phares-là dans votre vie d'intimité avec Dieu, dans ces figures de priants qui vous ont conduit de façon plus proche avec notre Seigneur. Quelles sont les figures comme ça sur lesquelles vous faites fond? Votre famille d'âme peut-être?
Mon parcours est un petit peu solitaire aussi, je pense, dans ces années-là, et même s'il y avait les amis du séminaire. Hein, mais c'était plutôt cela qui a été assez marquant. Hein, mais quand je dis solitaire, ça veut pas dire isolé ou à l'écart de tout. Hein.
Vous n'étiez pas taciturne, non?
Non, 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 c'est pas dans ce sens-là, hein, mais.
Alors,
Pas dans ce sens-là.
eh bien, ma question précisément, c'était dans le sens, je ne l'ai peut-être pas posé assez précisément, c'était les figures de saints, voilà, de l'Église triomphante, dirons-nous. Quelles sont ces figures-là qui vous aident, vous savez, avec lesquelles on retourne toujours avec plaisir à les côtoyer, à s'agrandir à leur compagnie. Pour certains, ce sera les saints du Carmel, pour d'autres, Saint François d'Assise.
Oui. La figure de sainteté, j'allais dire, c'est pour ma part, c'est vraiment celui dont je porte le prénom d'abord, c'est Saint-Pierre. Découvert et en méditant les passages des Écritures et qui parlent de lui, qui le présente avec son amour du Christ et aussi ses faiblesses. Hein, vraiment, c'est un homme avec des enthousiasmes et des péchés, mais c'est un peu cette figure de Saint-Pierre qui pour moi reste la référence, et puis la fameuse question de Jésus, Pierre m'aimes-tu, hein, que je médite souvent. Et voilà, c'est cette figure-là que je m'en avais. Alors mon prénom est double, puisque c'est Pierre-Marie, donc vous voyez, mes parents choisissent ce double prénom. Alors, bien sûr, la Vierge Marie est aussi présente, hein. Ne l'oublie pas.
Et de figures de prêtres ou d'évêques non plus non, qui font le c'est la parole de Dieu essentiellement. Vous n'avez pas de figure spirituelle à ce niveau-là. Saint François de Sales comme évêque par exemple ou
Non, enfin, je connais bien sûr
oui
sa vie et ses œuvres,
oui
mais
là je parle de fréquenter longuement ce qui s'appelle
oui,
une
non,
amitié
vraiment, non,
une
c'est
amitié
vraiment la
plus.
parole de Dieu, enfin, peut-être aussi parce que on m'a demandé d'être enseignant, hein, sur la parole de Dieu, et donc de la lire, de la méditer, de l'étudier, de la présenter à d'autres. Hein, donc tout ça, c'est une parole de Dieu qui est nourrissante. Hein.
Oui, mais
C'est
cette
pas
parole, oui,
un livre abstrait pour moi. Hein.
certainement pas. En tout cas, j'aime bien citer Saint François de Sales qui disait, c'est l'évangile vécu.
Voilà,
Voilà, voilà la
oui.
partition, c'est la parole de Dieu et les
Oui,
saints, ce
oui,
sont
oui.
là, ils l'ont chanté ce chant-là. Donc c'est.
Ah, mais Pierre Saint-Pierre l'a vécu, hein,
Ah, j'entends bien.
de manière bien claire.
Oui,
Hein.
il a payé de sa personne. Mais.
Le premier appelé, c'était son frère André, mais
Oui.
André l'a mené à Jésus. Hein.
Oui. C'est beau d'entendre cet amour de la parole de Dieu.
Oui.
Et ça fait encore maintenant vos délices,
Oui.
vous
Alors, d'abord,
l'approfondissez encore et encore.
en tant qu'évêque, j'ai moins de temps pour l'étudier, pour la présenter à d'autres, mais vraiment, c'est toujours une nourriture spirituelle, un appui. Puis J'essaie de la lire régulièrement et même de la présenter. Dans mon diocèse, je présente et tous les ans un petit livret de la parole de Dieu sur un livre biblique en particulier, avec des indications pour la réflexion personnelle, pour une réflexion en groupe, et puis aussi des notes qui aident à mieux découvrir ce texte. Et ça fait partie de ma mission d'évêque aussi, de faire que la parole de Dieu soit connue, aimée et pratiquée.
Et Monseigneur, justement, c'est votre parole d'évêque que je vais solliciter pour nos auditeurs, pour leur transmettre cet amour de la parole de Dieu, cet océan infini. Et par quelle porte vous conseillerez à nos auditeurs d'entrer? Quelle clé, comme un ancien, vous pourriez leur donner en main afin qu'ils puissent...
Le plus simple, c'est de commencer par les évangiles, hein, parce que... Prendre la Bible comme un livre ordinaire et démarrer à la première page pour essayer d'arriver à la dernière, c'est risquer de se décourager assez vite, parce que le livre de la Genèse, ça va à peu près, mais quand on arrive dans le livre de l'Exode, et à plus forte raison, les Nombres, le Lévitique, beaucoup se découragent. Et donc, commencer par les évangiles, parce que c'est, on y rencontre la personne de Jésus. Et puis ensuite, s'appuyer sur la liturgie, parce que je pense que les choix des passages qui sont lus à la messe, et sur 2 ans, ça donne déjà un bon aperçu des textes bibliques et de pouvoir rencontrer les grands personnages de l'histoire sainte. Et c'est le plus simple, vraiment. Et puis c'est une nourriture quotidienne qui est fournie à travers la liturgie.
Oui, c'est la nourriture que notre mère, l'Église, nous donne.
Oui, exactement.
Quant à Monseigneur, vos missions, votre apostolat dans la vigne du Seigneur... C'est concernant encore la parole de Dieu ou est-ce qu'il y a des chantiers selon votre cœur ou quels sont les axes maintenant?
Les axes, c'est-à-dire que il m'a semblé que de nourrir spirituellement les fidèles était vraiment une tâche essentielle des évêques. Et donc ce qui m'a façonné, c'est la parole de Dieu. Je me suis dit, c'est cela que je peux présenter et le plus clairement. Et puis ensuite, c'est bien sûr d'être au service de l'Évangile, et donc avec tout ce que ça implique comme mission quotidienne, de la célébration, de l'écoute, des conseils à donner, de l'animation du presbytérium local et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de la mission. Après, chaque évêque a une responsabilité au niveau national ou parfois même à Rome aussi. Et j'étais largement à la commission dite doctrinale des évêques, précisément à cause de la parole de Dieu. Et puis à Rome, on m'a demandé de participer à la congrégation qui suit toutes les questions qui touchent à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle évangélisation, en fait.
Et Monseigneur, concernant cette parole de Dieu, comment trouvez-vous qu'elle est reçue? Parce qu'elle est bien déployée maintenant, il y a un accès large à cette parole. Et quelles sont les joies, les opportunités, mais peut-être aussi les écueils et les risques dans cet accès à la parole de Dieu?
C'est-à-dire, la principale difficulté vient du risque d'interpréter à sa manière sa parole de Dieu. C'est un livre qui est particulier et qui demande de chercher à comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Mais c'est ça l'essentiel de l'interprétation.
Se décentrer d'une forme de piété, de piétisme, c'est toujours tourner vers soi-même. C'est peut-être
oui, assez... dans ce sens-là.
Oui, dans ce sens-là. Oui.
Tous ceux qui tournent vers une interprétation purement personnelle, quoi. Donc, la parole de Dieu, c'est d'abord de pouvoir découvrir ce que l'auteur a voulu nous dire, parce que c'est les auteurs sacrés, c'est eux qui finalement sont les premiers interprètes de cette parole.
Donc éviter peut-être ce qui plaît immédiatement.
Oui, dans ce sens-là, oui, parce que il y a des textes qui, à première vue, peuvent nous sembler hermétiques, en disant je ne comprends pas, mais plutôt que de passer rapidement à autre chose, de pouvoir y rester, demeurer, puis demander au Seigneur, mais Seigneur, parle-moi, explique-moi, dis-moi ce que tu as voulu exprimer à travers ce qui me paraît obscur.
Est-ce que vous ne trouvez pas, en tant qu'évêque, donc en tant que liturge, aussi qu'il y a cet écueil-là dans la célébration de la liturgie, de faire ce qui plaît immédiatement, de ce qui va toucher les zones les plus faciles à toucher immédiatement?
Il y a toujours ce risque, bien sûr. Hein, c'est toujours important de se garder hein, de toute interprétation trop rapide mais, ou incertaine. Hein.
Donc si je comprends bien, il y a une initiation à la sagesse, à l'esprit contenu dans les Saintes Écritures.
Oui, oui. Parce que la parole de Dieu, elle, je répète, c'est Dieu qui nous parle à travers des hommes. Et donc, il s'agit de percevoir ce que ces hommes ont voulu nous dire. Et puis, à un moment donné, ça se m'arrête et je me dis, voilà, c'est Dieu qui me parle aussi, pas simplement des hommes. Donc, d'être attentif à cette double dimension du Seigneur qui parle et des hommes qui parlent aussi.
Donc, cette révérence due à la parole de Dieu, mon Seigneur, c'est beau d'entendre cet amour que vous avez. Et c'est avec révérence que je vais me permettre pour conclure cette émission qui est courte. C'est avec révérence que je vais vous demander une bénédiction pour les auditeurs de Radio Maria France.
Oui. Oui, mais vraiment, je demande que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et que le Seigneur vous inspire et ce qui convient et pour vraiment que nous puissions, chacun à notre place, suivant ce que le Seigneur nous demande, réaliser sa volonté et être à son service. Et vraiment que le Seigneur vous éclaire et vous conduise. Amen.
Amen. Monseigneur, soyez vivement remercié de votre passage sur les ondes de Radio Maria France.
Merci.